Philippe Biamont, bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions d'Argot du deuxième tome de la trilogie consacrée à Dali. Il y avait eu Dali avant Gala, il y a Dali Gala, et le troisième, c'est pour
Septembre prochain.
Voilà. Alors, Gala, c'est une des muses de Dali, et ce n'est pas la, avec un grand M majuscule, la muse. Dali a 25 ans et toujours puceau au début de votre tome. Est-ce que c'est un grand timide ou un agoraphobe ?
Alors, Dali, jeune, est totalement introverti. On le connaît comme quelqu'un d'extrêmement extraverti, mais il a dû dominer son naturel introverti. Donc oui, c'est un grand timide, mais souvent les grands acteurs et les grands clowns sont de grands timides.
Parce que c'est vrai, on le voit notamment dans la première du Chien Andalou, il ne se présente pas. Le vernissage chez Goumans, où non plus il ne préfère s'échapper. C'est dans sa nature, finalement, alors.
Alors, je ne sais pas, mais en fait, lui, il a théorisé ça et il a dit qu'il fallait qu'il descende dans le... Il a été assez traumatisé par le métro, mais après, il en a tiré une théorie et il s'est dit qu'il fallait qu'il descende dans le métro de son esprit et qu'il puisse ressurgir à l'improviste. Donc, en fait, c'est un peu sa méthode, ne pas être là où on l'attend et être là où on ne l'attend pas.
Alors, à ses débuts, Dali fut influencé par le cubisme, surtout initié par Picasso et Braque. Et vous, le cubisme, apparemment, c'est un courant qui vous fascine, non ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que ça me fascine, mais dans mon travail, je retrace un peu par hasard, finalement, l'histoire de l'art moderne, en commençant par la jeunesse de Picasso, parce qu'on a fait, avec Clément Brery, qui est le dessinateur de Dali, quatre tomes qui s'appellent Pablo, et qui racontent par la voix d'une femme qui était le premier amour de Picasso, la jeunesse de Picasso et la genèse de l'art moderne. Et ensuite, avec Dali, on est quelques années plus tard, parce que c'est dans les années 20, donc ça a été une époque qui a été totalement irriguée par les découvertes de Picasso, par Braque, par Matisse. Et c'est vrai qu'au début, Dali est très influencé par Picasso, qu'il considère un peu comme son père spirituel. Mais c'est normal, c'est un Espagnol, c'est un génie. Dali a beau être introverti, il a totalement conscience de son talent et il est assez... prétentieux pour se croire à la hauteur de Picasso.
Est-ce que c'est déjà pendant que vous travaillez sur Pablo que vous avez pensé à la trilogie de Dali ?
Pas vraiment. J'ai commencé à réfléchir sur le surréalisme. Ce qui m'intéressait, c'était le vent de révolte qui avait animé les surréalistes français, fondateurs du surréalisme, Breton, Aragon, Soupeau, Éluard, après la Première Guerre mondiale. Et j'ai réfléchi en me disant, mais comment est-ce qu'on pourrait raconter ça en bande dessinée ? Et ça m'est apparu vraiment que pour raconter ça en BD, il n'y avait rien de mieux que Dali, qui avait insufflé un souffle nouveau au surréalisme et qui avait mangé même le surréalisme. Bon, bien sûr, exception faite de Magritte et du courant belge, qui a élevé sa vie propre, indépendante des Français.
Alors bon, les surréalistes, avec une belle définition, qui veulent réconcilier leur rêve et la réalité en une surréalité. C'est beau quand même ça.
Oui, alors c'est la grande découverte de l'inconscient. Et Aragon et Breton ont été étudiants en médecine. Pendant la guerre, Aragon a travaillé avec un psychiatre et il soignait les gens que le champ de bataille avait rendus fous. Donc ils étaient très sensibles à l'inconscient. C'est vraiment l'époque où les œuvres de Freud sont traduites. Et donc, voilà, c'est ce qu'ils inventent, ce qu'ils fomentent après la Première Guerre mondiale, c'est de redonner sa place aux rêves. Et leur question fondamentale dans leur vent de révolte, c'est pourquoi est-ce que le rêve serait moins important que la réalité ?
Alors, on peut quand même dire que Dali a une intelligence d'un supérieur, et il va même en arriver à clouer le bec à Breton et sa bande à 25 ans. C'est quand même assez impressionnant, quand même.
Oui, c'est un surdoué. Et c'est aussi ça qui est fascinant pour la scénariste que je suis, c'était de pouvoir rentrer dans son cerveau et de se prendre pour Dali et de s'identifier à lui. Et c'est possible parce qu'il a écrit un bouquin où on rentre vraiment dans les méandres de son cerveau, qui s'appelle « La vie secrète de Salvador Dali ». Et donc, on peut, en tant que scénariste, s'identifier à lui et se prendre pour un surdoué quelque temps.
Est-ce qu'on peut dire que Breton était subjugué par Dali quand il dit « Dali s'est ramené en entier ses délires dans le cadre de sa toile »
Oui. Breton fonctionnait comme ça. Il avait des engouements pour des personnalités souvent d'exception. Dali en fait partie. Et en même temps, Dali va être très utile au mouvement à un moment où en fait ils se perdent un peu dans des querelles pour savoir quels vont être leurs engagements politiques, est-ce que le communisme doit primer sur la révolution, comment ils étaient en train de se déchirer, et Dali arrive avec cette méthode paranoïa critique qui en fait qui va peindre tout ce qui lui arrive en rêve, toutes ses visions, toutes ses névroses, tous ses délires, qui est tout en étant capable de les analyser, de les mettre dans le cadre de son tableau. Donc il est à la fois le fou et le psy en même temps. Et cette méthode géniale, Breton, qui a plein de défauts, mais qui a quand même cette grande qualité de savoir reconnaître le talent, le voit tout de suite en Dali. Voilà.
Pablo, Isadora, Dali, ce sont quand même des êtres d'exception. On pourrait dire une existence « bigger than life », comme diraient les Américains.
Alors, c'est vrai que je me suis intéressée à ces personnages, donc Picasso, Isadora Duncan, Dali. Pourquoi ? Je ne sais pas. Évidemment, parce que c'est des personnalités dont je suis un peu tombée amoureuse, mais c'est aussi que chacun interroge le rapport de la muse et du regard qu'on peut porter sur elle. Isadora, elle va révolutionner la danse. Elle tombe amoureuse d'un poète, comment est-ce qu'elle est regardée, comment est-ce qu'elle envisage la folie et tout ça. Dali et Picasso, c'est des peintres, et je fais parler leurs inspiratrices aussi, et donc c'est aussi une façon de redonner de la voix aux femmes qui les ont inspirées et sans qui ils n'auraient pas été eux-mêmes non plus. Donc, voilà.
Devant une vie aussi riche, je suppose qu'il y a tellement d'épisodes marquants. Ça ne doit pas être évident de faire un tri pour constituer une trilogie.
Alors ça, c'est une bonne question. C'est qu'est-ce qu'on choisit ? Et c'est pour ça que ce n'est pas exactement une biographie, même si c'est le terme le plus simple employé, c'est plutôt un portrait. C'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment on devient Dali ou comment on devient Picasso et d'essayer de comprendre vraiment quelles ont été les forces en jeu pour qu'un type, certes qui s'est bien dessiné, mais qui a grandi dans une petite ville de province, devienne une personnalité si célèbre qu'au fin fond de l'Australie, on le connaisse encore 50 ans après sa mort, ce qui est quand même une prouesse incroyable. Donc comment il l'a fait et quelles sont ses recettes, et en fait voilà, et puis un petit peu essayer d'explorer ce mystère, parce qu'en fait ça reste un mystère. Dali aujourd'hui, donc il y a une grande exposition à Beaubourg, on est en septembre 2024, qui va se tenir jusqu'à Noël avant la fermeture du centre Pompidou qui est sur le surréalisme. Les foules viennent en masse voir tous ces tableaux. Donc il n'y a pas que des surréalistes, enfin c'est le centenaire du surréalisme, il n'y a pas que des œuvres des années 20, mais beaucoup. La jeunesse est très intéressée par le surréalisme, et c'est un mouvement qui est encore très vivant. Et ça, c'est passionnant de se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé, touché d'universel
pour encore toucher les gens actuellement. Quoi. Parlez-nous un petit peu de votre collaboration avec Clément. Notamment dans le choix des tableaux et des sculptures. Dali a peint entre 1500 et 2000 tableaux, réalisé entre 300 et 400 sculptures. Ça n'a pas été évident à faire de nouveau un tri dans les œuvres dont vous parlez.
Les œuvres dont on parle, ce sont celles qui sont utiles à l'histoire. Donc on n'envisage pas la totalité d'un œuvre peint. On regarde vraiment ce qui va nous servir. Et là, en l'occurrence, par exemple, le grand masturbateur, le jeu lugubre. Et puis aussi, on s'est beaucoup servi du chien andalou. Et on va aussi beaucoup servir de L'âge d'or, qui sont deux films que Dali et Buñuel ont fait ensemble. Voilà.
Est-ce qu'il y a maintenant, avec Clément, puisque ce n'est pas la première collaboration, hein, une sorte de modus operandi entre vous ?
Alors, on a fait plus de 10 livres ensemble et on est vraiment très complémentaires, voire fusionnels dans le travail. Et donc, modus operandi, je ne sais pas, mais en tout cas, une grande complicité.
On a l'impression, quand on voit votre ouvrage, qu'on a utilisé une sorte de programme 3D, tellement on parvient à rentrer dans les toiles et dans les sculptures. Même à la limite, quand vous parlez de l'infante de Velázquez, on y est, on est dedans, c'est incroyable.
Alors ça, il faut en féliciter le dessinateur, parce que c'est vrai que c'est vraiment une grande réussite. Il réussit vraiment à nous faire plonger dans les tableaux. Dali, dans sa jeunesse, va tous les dimanches au Prado pour dessiner. Il est fasciné par le Jardin des Délices de Bosch, qu'on va aussi explorer, et par les Ménines de Velázquez. Les Ménines de Velázquez, peut-être que vous avez oublié que sur la partie gauche du tableau, en amorce, il y a le peintre qui est en train de peindre la scène. Et il y a tout un vertige entre qu'est-ce qu'il est en train de peindre, qui peint, qui regarde.
Et vous expliquez très bien, d'ailleurs.
Merci. C'était pas si facile à faire et c'était à la fois passionnant. Et donc oui, on se met à plonger dans le tableau.
Dans ce deuxième tome, Dali n'a pas encore trouvé son look. Apparemment, il cherche, à part le chat et les moustaches. Est-ce que ça va évoluer dans le troisième tome ?
Alors, au début de l'album, quand il arrive à Madrid, il est habillé comme un rat d'égout. Et en fait, je pense que son influence est plutôt les rapins 1900 parisiens. Donc il a une grande cape, des guêtres, des bandes molletières. Et en fait, avec ses copains Lorca et Buñuel, il va aller dans des endroits chics et il va prendre conscience qu'il est vraiment très très mal sapé. Et pour pouvoir approcher les filles, il va se mettre à changer totalement de look pour une coupe de cheveux gominée. Mais alors, comme il ne sait pas vraiment qu'on met de la gomina, il se trompe, il met de la colle à tableau, donc ça devient dur comme des disques vinyle. Mais il va chez un bon tailleur et il a déjà une grande excentricité qu'il commence à assumer, c'est-à-dire qu'il se fait faire des chemises en soie bleue avec des boutons de manchette en saphir. Et ensuite, à Cadaqués, donc dans le tome 2, il ne sait pas comment s'habiller. Il faut essayer d'imaginer que Dali donc, a fui Paris parce qu'il n'y a pas trouvé le succès qu'il croyait tout cuit. Et à Cadaqués, donc dans son petit village perdu au fin fond de la Catalogne, vont arriver Magritte et sa femme, un galériste belge, Goussemans, et sa maîtresse, et Paul Éluard, le grand poète, et sa femme Gala. Et Dali, c'est un petit blanc-bec qui a 10 ans de moins et qui est totalement impressionné. Et alors, comment être, comment se faire Et tous ces gens viennent pour lui. Ils connaissent pas vraiment son travail. Et en même temps, il est terrifié. Et sa réponse, elle va être dans un excès baroque, parce qu'il va s'habiller vraiment d'une façon que vous allez découvrir dans la BD. Mais pour la première fois, le premier soir avec Gala, il est vraiment habillé. On peut quand même, sans complètement spoiler, dire qu'il ressemble à Rudolph Valentino mélangé avec une pop star queer, on pourrait dire ça. Et ensuite, il va expérimenter d'autres looks pour rejoindre ses amis à la plage et utiliser un parfum de crotte de biquette que je vous laisse aussi découvrir. Mais tout ça est totalement vrai et c'est ça qui est fou avec Dali, c'est que toutes ces outrances, il les a vraiment vécues avec une grande sincérité.
Voilà. Dali et les femmes ou la femme idéalisée, en fait il est fasciné et en même temps effrayé. Il est comparé à des scorpions, des montres religieuses.
Alors, les scorpions, non, c'est Buñuel qui voit ça, qui va trouver cette image et qui va la mettre dans ses films, la danse, la parade des scorpions. Mais oui, Dali est persuadé que s'il fait l'amour avec une femme, il va mourir, il va se faire déchiqueter comme les mantes religieuses déchiquettent leurs amants. Et c'est Gala qui va l'apaiser et avec qui il va connaître l'amour.
Un grand amour. L'autre versant du désir, c'est la mort, une autre obsession de Dali. Dali, on pourrait dire, on en a déjà parlé, le parfait exemple freudien, Eros Thanatos, non ?
Oui, alors il y a aussi cette question de la solitude, et une question qui, je pense, s'oppose à beaucoup d'artistes qui ont leur univers, leur monde et qui sont très solitaires. C'est la terreur que l'amour vienne le rendre dépendant et vienne casser sa solitude. Donc il s'était fait une sorte, et il raconte ça très bien, une sorte de petite folie personnel qui était qu'il mettait à mort mentalement toutes les filles, fillettes, jeunes filles qui l'attiraient. Comme ça, il s'en débarrassait. Et d'ailleurs, avec Gala, il hésite aussi à faire pareil. Et donc, il y a vraiment ce désir exprimé que l'amour reste inassouvi. Comme ça, il ne serait pas enchaîné à cet amour.
Est-ce qu'on pourrait dire que il y a quand même un grain de folie chez Dali, un peu comme le sultan avec le mannequin au nez sucré?
Alors, un grain de folie plus que ça, puisqu'il flirte vraiment avec la folie, mais en vérité, est-ce qu'on ne flirte pas tous avec la folie? Et est-ce que Dali, son universalité, n'est pas justement d'assumer ce rapport qu'on peut avoir tous, de flirter avec la folie? Et donc, l'histoire du mannequin en cire, c'est la même chose. C'est un sultan qui désire des femmes très belles et qui ne fait que les regarder et au matin leur coupe la tête jusqu'à ce qu'une femme rusée substitue au mannequin de substitue à la jeune vierge, à elle-même, un mannequin de cire. Et donc, le sultan ne fait que couper le nez de sucre du mannequin et il est sauvé. Donc c'est la même chose que ce que je vous racontais sur le fait que c'est bien plus commode de mettre à mort la femme qu'on désire que de vivre avec elle et d'assumer de ne plus être seule.
Une séquence assez interpellante, c'est l'analyse perverse de l'Angélus de Millet pour en faire finalement un tableau porno. Quand même pas mal comme analyse.
Alors, je ne sais pas si c'est pervers, mais en tout cas, Dali a écrit tout un livre qui s'appelle « Le mythe tragique de l'Angélus de Millet ». Donc l'Angélus, si vous vous rappelez, ce sont deux paysans dans un champ de pommes de terre qui prient parce qu'ils entendent la cloche de l'Angélus. Et Dali en fait une interprétation totalement délirante et convaincante. Il en fait un tableau hautement porno et c'est en même temps délirant et hilarant et en même temps convaincant. Donc ça non plus, je ne vais pas vous spoiler, vous divulgâcher comme on dit, mais vous serez conquis.
Alors parmi les muses, bon, il y a fatalement Gala, sans doute la plus importante, il y a l'Angélus, il y a Hélène de Troie et Amanda Lear. Est-ce qu'elles vont apparaître dans le troisième tome?
Alors, Amanda Lear, c'est bien plus tard. Amanda Lear, ça sera une jeune femme dans la vieillesse de Dali. Et là, on est vraiment dans l'extrême jeunesse de Dali. Donc non, il n'y aura pas Amanda Lear. Je vois, Jean, que vous auriez rêvé de la voir, mais non, elle ne va pas apparaître. Et ensuite, Hélène de Troie, bah, c'est, en fait, elle n'apparaît pas tant que ça. Et c'est une des figures... elle n'est pas si essentielle que ça. Et qui d'autre, vous m'avez dit ?
Bell'Angélus.
L'Angélus, c'est un tableau, c'est pas une femme. Donc ça, l'Angélus est déjà là et continuera à l'être parce qu'il a vraiment hanté tout le travail de Dali.
Le télégramme final, vous pourriez expliquer un petit peu? C'est une porte ouverte au tome 3?
Alors, oui. Le télégramme final, c'est Éluard qui écrit parce qu'il recherche sa femme qui est partie avec Dali. Et en fait, c'est fondé sur des vrais documents parce que nous sont restées toutes les lettres, beaucoup des lettres d'Éluard à Gala et notamment aussi des télégrammes. Et on comprend. Alors, on va raconter dans le tome 3 les dessous de l'histoire de Gala et d'Éluard, qui sont très touchants aussi.
Julie, un grand merci. Donc, on rappelle le deuxième tome des grandes aventures palpitantes de Dali, Dali Gala. Merci à vous.
Merci beaucoup.